Bon, le titre est un petit peu prétentieux, comme vous le verrez, mais je voudrais aujourd'hui parler d'un manuscrit que tout le monde connaît, dont l'attribution a donné lieu à beaucoup de propositions. Bagdad, Kairouan, Cordoue, Palerme. Bref, le manuscrit a beaucoup voyagé. Du moins, on l'a fait voyager. À ce jour, on ne dispose d'aucune indication précise, un colophon, un acte de waqf, qui nous permettrait de cerner sa date et encore moins de définir le lieu de production. Mais ce que je me propose de faire, c'est de retourner au manuscrit, de le questionner lui-même pour découvrir d'éventuels indices permettant de cerner la date à laquelle il a été confectionné, la région où il a été produit, et éviter autant que possible de l'adapter à une sorte de schéma prédéterminé par d'autres considérations. Le manuscrit est entré en scène, a été connu grâce à des feuillets qui avaient été achetés par Frédéric Martin à Istanbul. On ne sait pas combien il en a acheté. Et dans un livre qu'il a publié en 1912, il en publiait une reproduction. Peu de temps auparavant, le manuscrit était passé par la douane iranienne et avait reçu un tampon avec la date de 1902. En 1956, sans avoir apparemment eu connaissance du livre de Martin, Ibrahim Chabour édita l'inventaire médiéval de la bibliothèque de la Grande Mosquée de Kairouan, daté de 1294, où figurait une brève description d'un Coran sur parchemin bleu en 7 volumes. En 1963, Mohamed An-Nayal publiait un petit livre dont on oublie l'existence sur la bibliothèque de Kairouan. Il reproduisait en particulier les premières pages de l'inventaire, et là, chose qu'on aurait dû découvrir à ce moment-là, on n'observait que la description du Coran bleu qui se trouve sur cette ligne-là, était en fait amputée d'une partie du texte, et surtout la reproduction montrait dans la partie supérieure une date, malheureusement multidée, mais qui pourrait être, selon moi, de 430-1135, date sans doute d'un inventaire antérieur auquel il est fait référence à plusieurs reprises dans l'inventaire de 1294. Donc une partie de l'information de ce texte pourrait en fait remonter au XIIe siècle. Par ailleurs, An-Nayal signalait que 75 feuillets étaient alors conservés à Kairouan. Ces deux publications tunisiennes, malheureusement, ne furent pas remarquées rapidement par le monde savant. 1976, c'est l'année où les problèmes se font manifestes. Deux expositions sont organisées à Londres dans le cadre du World of Islam Festival, l'une à la British Library, l'autre à la Hayward Gallery. Et dans l'une, la Hayward Gallery, le manuscrit est attribué à la Mésopotamie abbasside, et à la British Library, il provient de l'Ifriqiya Zirid, enfin 10e siècle, disons. Le Coran bleu représente un cas extrême de la situation que nous avons vue tout à l'heure dans la communication d'Edin Mahmoutovic de dispersion de ces manuscrits avec des feuillets un peu partout. Une partie importante se trouve en Tunisie, d'une part à Kairouan, où 60 feuillets sont conservés, soit à Raqqada, soit au centre d'interprétation situé près de la mosquée, et 5 au musée du Bardo à Tunis. Il y aurait donc, de nos jours, 65 feuillets en Tunisie. Ceux qui ont circulé sur le marché, qu'ils fassent ou non partie de collections privées, sont plus difficiles à recenser, notamment parce que nous ne connaissons souvent qu'un seul côté du feuillet. J'en ai identifié 56, mais d'autres peuvent n'être pas passés par les ventes aux enchères qui permettent de les connaître. Ce qui veut dire que nous avons un total de 121 feuillets, auxquels s'ajoutent 3 qui figurent sur une liste dont je parlerai dans un instant, ce qui ferait un total de 124 feuillets. Comme l'avait remarqué Jonathan Bloom, ceux qui sont entrés dans le circuit commercial proviennent presque tous du premier septième du texte coranique, lequel s'achève en principe au verset 60 de la sourate 4. Seuls 10 de ceux qui sont passés en vente publique proviennent d'autres emplacements du texte. Le manuscrit a été copié sur du parchemin teint avec de l'indigo. Deux hypothèses ont été avancées à propos de la technique d'application de la couleur, soit en frottant le parchemin avec un bâton de matière colorante ou à l'aide d'une brosse d'une part, soit par trempage dans un bain colorant de l'autre. Une autre méthode est suggérée par des manuscrits carolingiens. Des chercheurs ont estimé que ni le premier procédé ni le deuxième ne donnaient de résultats expérimentaux satisfaisants et que le parchemin avait été teinté à la presse, c'est-à-dire qu'on imbibait un morceau de tissu avec la matière colorée et on pressait de manière à obtenir, comme vous le voyez dans le troisième témoin, la couleur pourpre sur le parchemin. Les feuillets du manuscrit mesurent environ 310 mm sur 400, sont couverts de 15 lignes d'une écriture dorée qui se rattache au groupe des 4 de la typologie des écritures dont il a été question. La dorure a été appliquée, puis le contour des lettres a été passé à l'encre. D'autres manuscrits de style des 4 présentent des caractéristiques voisines pour les dimensions, pour le nombre de lignes. Les traces de la réglure, à la différence des autres manuscrits, sont encore visibles, vous les apercevez ici, mais il semble qu'il y ait de légères différences entre les feuillets sur la façon de tracer ces lignes. D'après le texte présent sur deux séquences, des sourates 18 d'un côté, 19-20 de l'autre, j'ai estimé que le manuscrit comportait initialement un peu plus de 530 feuillets. Avec donc au moins 124 feuillets préservés, nous posséderions un peu moins du quart du manuscrit. Deux étapes peuvent être distinguées dans l'enluminure. Les versets étaient initialement séparés par des groupes de trois tirets dorés que l'on voit ici, voilà, qui ont été remplacés par la suite, j'y reviens. Les groupes de 10 étaient séparés par ce type de décor circulaire avec une lettre chiffre dorée selon le système de l'Abjad. Les sourates, de leur côté, ont été séparés par des bandeaux anépigraphes de la hauteur des lettres basses de l'écriture. À ce jour, je connais 7 décors de sourates qui proviennent des 3e, 4e, 5e, 6e et 7e volumes, donc qui couvrent assez bien l'ensemble du manuscrit. Une vignette placée dans la marge extérieure, la vignette c'est ceci, accompagne le décor, sauf pour la sourate 13, parce que la sourate 13 a été, donc la sourate 12 s'est achevée ici, et le copiste a décidé de laisser seulement la fin de la ligne, donc la vignette n'a pas été placée à cet endroit. Les décors montrent une grande homogénéité, avec des décors qui prennent surtout la forme d'un arbuste composé de rinceaux symétriquement organisés, sauf pour celui-ci qui est organisé de manière plus lâche. À une date que nous devrons préciser, le manuscrit a subi une série de modifications. Les séparateurs de versets originels ont été recouverts par ces décors, on en a vu un tout à l'heure, par des décors en forme de rosette, de l'argent, et pour les décors de dizaines, le décor nouveau, à l'argent également, c'est pour ça qu'il est noir, il s'est oxydé, a été placé dans la marge à la hauteur de la rondelle initiale indiquant le nombre des versets. Les titres des sourates également ont été ajoutés en argent ici, une procédure donc qui est tout à fait inhabituelle pour des manuscrits du Coran. En tous les cas, l'argent était appliqué au moins avant 1294, puisque l'inventaire de Kérouan nous en parle déjà, et peut-être avant le XIIe siècle. L'unique décor en pleine page se trouve à la fin du premier septième. Au recto, le texte ne s'arrête pas à la fin du verset 61 de la sourate 4, qui représenterait la fin normale du premier septième du Coran, mais se poursuit non seulement au bas du recto, avec le premier mot du verset suivant, le verset 62, mais également au verso où le texte a été dissimulé par le décor. Tim Stanley, qui a publié cette photo, fait l'hypothèse d'une erreur du copiste qui ne se serait pas arrêté à temps, obligeant l'enlumineur à réaliser son décor au-dessus du texte qu'il avait écrit. Pour lui, comme pour Marcus Fraser, il s'agit d'un élément qui appartient à la même phase que la copie du texte lui-même. On notera pourtant que la vignette, vous me pardonnerez, la photo est mauvaise et j'ai essayé de découper la forme de la vignette. La vignette est d'un type complètement différent de celui des sourates. L'organisation par paire symétrique de palmes charnues contraste avec les fines et délicates volutes des premières vignettes, de même qu'avec l'utilisation des couleurs de la reliure. Elle fait de fait davantage penser à ce type de vignette que l'on connaît bien pour la suite. La production manuscrite contemporaine prévoit d'ordinaire pour les fins de volume qu'il s'agisse de parties, comme les septièmes ou les douzes, ou qu'il s'agisse d'un Coran en un seul volume, ce genre de décor, c'est-à-dire des cadres à l'intérieur desquels le décor est installé. C'est le cas du manuscrit que vous voyez actuellement, le Nur Osmaniye 27 d'Istanbul, qui est un manuscrit très similaire au Coran bleu et qui donne un exemple de la façon dont les choses étaient organisées. Selon toute vraisemblance, le décor que nous avons vu, le décor en pleine page, a été ajouté au moment où le manuscrit a été physiquement découpé en sept parties. Le Coran bleu se présentait à l'origine très probablement comme un unique volume, de même que le manuscrit d'Istanbul, qui lui a été coupé en deux. Les parties qui ont été victimes de l'opération, parce que quand vous coupez un manuscrit, forcément, il y a des feuillets qui passent d'un côté mais qui ne vont pas de l'autre et des textes qui manquent. Donc les parties victimes de l'opération de découpage ou de dépeçage, si vous préférez, ont été remplacées par des feuillets où a été recopié le texte qui avait été perdu. On n'a malheureusement aucune trace de ces réflexions, ou du moins on ne les a pas identifiées. L'histoire du manuscrit peut nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. Récemment, à l'occasion d'une vente aux enchères et pour donner des garanties à l'acheteur, un marchand d'art londonien a donné des indications sur une série de feuillets provenant de Martin. Outre la liste des acheteurs des autres feuillets, il signalait avoir toujours la reliure, que nous voyons ici, une reliure qui était peut-être plus un portefeuille qu'une reliure et qui date, selon toute vraisemblance, de la fin du XVIe siècle et pourrait être un travail persan. L'origine iranienne d'une partie des feuillets, soutenue par Martin en son temps et confirmée par ce témoignage, est également signalée sur le site de l'Aga Khan Museum de Toronto. Que des feuillets du manuscrit circulaient en Iran m'a par ailleurs été confirmé par une source bien informée qui m'a signalé qu'il était encore possible d'acquérir des feuillets du Coran bleu en Iran dans les années 60. Enfin, je le rappelle, un des feuillets, celui qui est au musée de Boston, porte l'empreinte d'un tampon de la douane iranienne avec la date de 1902 qui a été probablement apposé au moment où le feuillet sortait d'Iran, peut-être avec d'autres. La distribution des feuillets elle-même est extrêmement parlante. La collection de Kairouan n'en contient aucun qui provienne du premier septième. En revanche, les 75 feuillets dont parle An-Nayal, s'ils correspondent bien aux 65 feuillets tunisiens plus les 10 feuillets dispersés par des ventes aux enchères, couvrent les 6 autres septièmes du Coran. De même, la différence entre l'état de conservation du premier septième et celui des autres est frappante. Du premier, nous n'avons que très peu de bifeuillets, mais l'état général est bon et le taux de survie, si je puis parler ainsi, est satisfaisant puisque nous avons conservé presque 65% de ce volume. Des autres provient la majorité des feuillets, certes, mais leur état est plus médiocre et seulement 16% des 6 volumes pris globalement nous sont parvenus. L'explication est simple, les feuillets qui se trouvaient en Iran étaient réunis dans une reliure qui les protégeait, Alors que, selon ce que nous savons de la collection de Kairouan, par exemple d'après le témoignage de ce voyageur égyptien du début du XXe siècle, les vestiges des manuscrits étaient entreposés dans de piètres conditions. Quelle est la date du manuscrit ? L'orthographe du Coran bleu n'a plus les traits archaïques que l'on trouve sur le codex parisino-pétropolitanus de la deuxième moitié du VIIe siècle. Elle est également plus évoluée que celle des grands Corans à 12 lignes que j'ai proposé d'attribuer au règne du calife abbasside al-Mahdi, mais conserve cette graphie particulière pour Bi Ayatina avec trois denticules, graphie qui semble disparaître dans le courant du IXe siècle. Les décors s'accordent bien avec la pratique dominante dans les copies de style D4 qui s'inscrivent dans la continuation de ces mêmes Corans à 12 lignes. Les décors de sourates ont été conçus pour être anépigraphes, ce qui correspond à un usage ancien de la période omeyyade et également de la début de la période al-Abbaside. Là, c'est toujours ce Coran. Vous voyez que le bandeau n'a aucune place pour un titre. Le titre qui est ici a été ajouté par la suite, de même que sur le Coran bleu. Ces différents éléments conduisent à penser que le Coran bleu s'intègre dans une production du début de la période abbasside entre l'extrême fin du 8e et le début du 9e siècle. Où a-t-il été produit ? Blum a voulu voir dans la valeur de la lettre Sad, utilisée dans le manuscrit pour indiquer le 60e verset, un indice d'une production maghrébine. Mais dans les manuscrits de Foustat ou de Damas, cette valeur constitue la règle. C'est l'usage ancien dans le monde musulman et ça n'est donc pas un argument pour faire du Coran bleu un manuscrit produit dans l'Occident musulman. Le parchemin teinté n'est pas en lui-même un élément suffisant pour définir une origine comme on a voulu le faire récemment. Outre que la matière colorante employée, l'indigo, est largement disponible à l'époque, on connaît dans d'autres collections, principalement à Damas, des copies du Coran sur parchemin coloré. Dans la collection de Kairouan, rappelons-le, le Coran bleu est le seul exemple de cette pratique. Alors, un premier élément à tenir en compte pour discuter du lieu où fut produit le manuscrit est la ponctuation diacritique. Elle n'est pas très abondante, mais cruciale dans la mesure où le ou les copistes distinguaient le fa du kof en les ponctuant à la manière orientale, c'est-à-dire avec un tiret au-dessus du fa et deux au-dessus du kof. Ça n'est pas du tout la façon de faire de l'Occident musulman. Donc là, vous avez une série d'exemples avec le kof. Avec ces deux tirets, là, bon, ils ont l'air d'être ensemble, enfin, ici, vous avez également deux tirets. En revanche, ici, vous avez un fa avec un seul tiret. Donc, cela constitue un indice fort pour conclure que la copie a été exécutée dans une région où l'on ponctuait de cette manière, c'est-à-dire au Proche-Orient. Sur le manuscrit d'Istanbul, Nur Osmani 27, ces deux lettres sont également ponctuées à l'oriental et il en va de même sur un certain nombre de manuscrits de type D4 provenant de Foustat. Cet indice purement formel se trouve conforté par une donnée textuelle, la qira du manuscrit, et je remercie Edin Mahmoudovic pour l'aide qu'il m'a donnée sur ce point. Certes, l'histoire des lectures au IXe siècle est encore mal connue et l'absence d'indication des voyelles brèves sur le Coran bleu limite considérablement les possibilités d'arriver à des conclusions précises, surtout quand le manuscrit est lacunaire. Mais une variante dans la sourate 43, verset 71, Tastahi, est attribuée d'une part au Mekwa Ibn Kathir et de l'autre aux Koufiens Hamza et Al-Kisai. La lecture ne correspond donc pas à une lecture dérivant de Nafi, ce que l'on attendrait dans l'Occident musulman, et ce encore moins au Xe siècle, où les choses se sont déjà pas mal stabilisées. Le Coran bleu est donc, comme Alain Georges l'avait déjà signalé, une copie produite au Proche-Orient. Je ne préciserai pas davantage, Georges a déjà rappelé les différents éléments qui permettent de constater la présence de cette association de dorures et de bleus dans la région à l'époque abbasside. L'Irak est une possibilité, mais il ne faut pas exclure l'Égypte. Différents indices, textuels et matériels, viennent appuyer une date entre la fin du 8e et le début du 9e siècle, mais un siècle environ après avoir été réalisé, le volume unique a été découpé en 7 pour des raisons que nous ignorons. Des feuillets qui, comme celui qui porte le décor, se trouvaient au point de jonction entre les deux volumes nouvellement créés. Comment le Coran bleu est-il parvenu à Kairouan ? Des documents que nous avons publiés, jettent un jour sur la circulation des manuscrits coraniques dans le monde abbasside. Je rappellerai celui-ci, dans lequel on apprend qu'un haut officier turc de Samara, Moussa ibn Boa, avait chargé un homme de confiance de convoyer une copie du Coran vers l'Égypte ptolémaïque depuis Samara, donc en allant dans une région où le calife n'était pas vraiment seul maître à bord. Un exemple un peu postérieur nous renseigne sur un autre exemplaire que Badr ed-Din, mort en 903, commandant en chef sous le règne d'Al-Mu'tadid, fit déposer à la grande mosquée de Damas à une époque où la ville était encore entre les mains des Toulounides. À l'époque abbasside, donc, les copies du Coran voyageaient et de grands personnages en envoyaient dans des villes importantes, même si, de manière effective, elles ne se trouvaient pas dans un territoire soumis directement à l'autorité califienne. Si le manuscrit fut produit à Bagdad au début du IXe siècle, fut-il envoyé là-bas à cette époque ? C'est une possibilité. Comme le rappelle Blum, les carreaux de céramique du mihrab de la grande mosquée ou encore les panneaux de teck de son toit, qui pesaient sans doute plus lourd qu'une copie du Coran, fut-il en seul volume, firent le voyage de Bagdad à Kairouan. Une autre possibilité n'est pas écartée. Le Coran bleu a pu avoir été déposé initialement dans une mosquée égyptienne et pris comme butin au Xe siècle par les troupes zirides qui semblent avoir rapporté de leur participation à la conquête fatimide de l'Égypte plusieurs des manuscrits qui sont de nos jours conservés à Kairouan. La date des modifications est malheureusement difficile à préciser. Les décors en argent sont associés à d'autres écritures, notamment D1, laquelle est proche, par ailleurs, de celle que l'on trouve pour les titres. Ces différents éléments pourraient correspondre à une date dans la deuxième du moitié du IXe siècle, même légèrement plus tard. Qu'en est-il du décor en pleine page qui recouvre le texte coranique ? L'emploi d'or et non d'argent pour cette enluminure pose la question de savoir si elle est contemporaine des décors dont il vient d'être question, ceux en argent, je veux dire. Elle me paraît en tout cas associée à l'opération de découpage du manuscrit en 7 volumes qui aurait donc pris place au Xe siècle. Je serais tenté d'y voir la première étape des modifications suivie par l'ajout des décors en argent. Le chemin du manuscrit est complexe. Est-il arrivé entier à Kairouan ? Le premier septième se trouvait entre le XVIe siècle au moins et le XXe en Iran, d'où ces feuillets sont sortis progressivement, mais certains s'y trouvent encore. Les six septièmes suivants étaient quant à eux à Kairouan, peut-être dès le XIIe siècle. L'état du texte de l'inventaire ne permet pas d'arriver à une certitude que les 7 volumes aient tous été sur place alors. Donc on peut imaginer plusieurs scénarios. Le manuscrit envoyé, disons, de Foustat à Kairouan ou de Bagdad à Kairouan, et après cela, soit le volume numéro 1 quittant Foustat pour aller vers l'Iran ou encore quittant Kairouan pour retourner en Iran. On voit qu'il y a plusieurs possibilités, mais on ne peut pas faire plus que des hypothèses à ce propos. Comme vous le voyez, donc, le mystère qui entoure le Coran bleu n'est pas complètement dissipé, mais du moins, je pense que nous avons maintenant des réponses plus précises à propos de la date et du lieu de production de ce célèbre manuscrit. Je vous remercie.